Merci, merci Alain pour cette invitation et avoir le plaisir de vous présenter les résultats que nous avons obtenus sur l'étude de la tolérance B périphérique, centrale et périphérique. Alors je vais essayer de faire la présentation en français. De temps en temps, je risque de déraper, d'avoir peut-être quelques mots en anglais, mais je vais essayer de m'y tenir. En t'écoutant un peu plus tôt, ça m'a motivé. Je me suis dit, tiens, ça fait 18 ans que j'ai pu présenter les résultats en français. Donc, je vois qu'a priori, vous avez déjà discuté de ce qu'est un lymphocyté régulateur. Donc, tout ce que je vais vous dire maintenant va être très simple, mais enfin, c'est comme dans toutes les pièces de théâtre. Il y a toujours acte 1, scène 1, et donc c'est un peu la présentation un peu de tout ce qui se passe. Et ici, ce sont dans les acteurs du système immunitaire, donc Adaptive Immune System. Et donc, les cellules T, sont, comme Alain vous l'a dit, se développent dans le thymus. Ils expriment le récepteur T, qui reconnaît des épitopes antigéniques qui sont des peptides, qui sont présentés par le complexe majeur d'histocompatibilité. Et ici, je représente un TCD4 positif. Et surtout, les cellules TCD4 sont donc un peu le chef d'orchestre du système immunitaire spécifique. Et c'est pour ça qu'à la limite, T a été choisi pour thymus, mais en fait, ils sont fantastiques. Mais en anglais, c'est terrific. Mais vous voyez aussi que donc, l'autre bras du système immunitaire adaptif sont les cellules B, qui, eux, se développent dans la moelle osseuse. Alors, le B, en fait, ce n'était pas pour bone marrow, c'est parce que ça a été identifié chez l'oiseau, et c'était, c'est la bursa, donc la bourse de Fabricius. Ils expriment aussi un récepteur spécifique qui résulte de la recombinaison des gènes d'immunoglobuline, qui s'appelle le récepteur, donc on appelle le BCR, ou le récepteur B, qui, en fait, entre autres noms, aussi, c'est pour ça, c'est en fait une forme membranaire des immunoglobulines ou des anticorps qui sont sécrétés dans le sérum. D'accord ? Donc c'est le même récepteur qui est exprimé ici à la membrane, qui est appelé donc récepteur B, et qui reconnaît cette fois-ci des antigènes entiers. C'est-à-dire que là, ce n'est pas simplement la reconnaissance d'un seul petit peptide, ça peut être toute une structure complexe qui est directement reconnue par ce récepteur. Alors c'est pour ça, mais B, on peut dire qu'ils sont beaux, et ici en anglais, donc c'est beautiful, brave ou beneficial, puisque donc ils sont... Ouais, exactement. On essaie de voir. Ici, c'est le bon côté des choses. Malheureusement, tout ça, tout ne se passe pas toujours de façon aussi bien. Et en particulier, dans les cas d'immunité, on voit bien que les lymphocytes peuvent infiltrer les tissus et être agressifs. Et à ce moment-là, on peut dire qu'ils sont peut-être traîtres. Et à ce moment-là, cette fois-ci, les lymphocytes B produisent des auto-anticorps, qui en particulier au niveau du lupus peuvent accentuer les phénomènes d'inflammation et de dégâts au niveau des reins et d'autres organes. Et à ce moment-là, c'est peut-être que B, cette fois-ci, va peut-être pour bad, bold and belligerent, donc belligérant, mauvais et hardi, donc assez agressif. Alors, je me suis intéressé depuis longtemps au rôle des lymphocytes B dans l'auto-immunité parce que, en fait, alors qu'on vous a toujours dit que les lymphocytes T sont les chefs d'orchestre, qu'ils contrôlent toutes les réponses, de façon assez surprenante, les résultats ont été beaucoup plus probants pour l'amélioration des conditions des patients avec les maladies auto-immunes en éliminant les lymphocytes B plutôt qu'en éliminant les lymphocytes T. Et si ça a été le cas, c'est parce que Alain vient justement de vous parler que quand vous éliminez les lymphocytes T, vous éliminez les lymphocytes T, mais vous éliminez aussi les lymphocytes T régulateurs. Et donc, des deux, finalement, ça n'améliore pas toujours grand-chose. Il faudrait savoir éliminer plutôt le bon sous-type de lymphocytes. Et donc, ici, il y a des éléments dans la littérature qui avaient déjà montré que les lymphocytes B jouaient un rôle important, par exemple ici, dans le modèle de souris diabétique, le modèle NOD, puisque si vous prenez ces souris et qu'elles sont croisées avec un fond génétique qui empêche le développement des lymphocytes B, ces souris ne développent plus le diabète. Donc, en fait, alors qu'elles ont toutes les autres cellules immunitaires, les lymphocytes T et le reste, simplement l'absence des lymphocytes B dans ce système, alors que c'est le diabète qui est connu pour des lymphocytes T qui infiltrent le pancréas, qui détruisent les cellules qui produisent l'insuline, en fait, en l'absence de lymphocytes B, qui n'est pas du tout dans ce scénario, finalement, vous bloquez le diabète. Il y a un autre modèle ici de néphrite qui aussi est dépendant des lymphocytes B. Et plus récemment, j'allais dire maintenant, l'étude chez l'homme a montré que la déplétion des lymphocytes B par ce produit, par cet anticorps monoclonal qui reconnaît la molécule CD20, qui est exprimée sur les lymphocytes B et qui s'appelle donc le rituximab, donc en fait, est maintenant approuvé pour le traitement, en tout cas aux États-Unis, de l'arthrite rhumatoïde et maintenant de la sclérose en plaques. Ce qui montre que, effectivement, donc, l'efficacité des thérapies qui éliminent les lymphocytes B dans ces maladies auto-immunes. Maintenant, par exemple, je voudrais préciser par exemple, que dans le cas du lupus, qui est une maladie B, enfin, ou qui était censée être vraiment une maladie où on sait que les auto-anticorps jouent un rôle très important, cette molécule rituximab n'a pas donné de résultats probants. Et on peut peut-être se dire c'est parce qu'en fait, elle élimine les lymphocytes B, mais elle n'élimine pas les plasmocytes, qui sont les cellules qui sécrètent les anticorps, et en particulier les auto-anticorps. Et on peut peut-être se demander si c'est pour ça que finalement, dans le cas du lupus, cette thérapie n'est pas aussi efficace. Alors, dans mon laboratoire, donc, en fait, nous sommes intéressés à comprendre les mécanismes qui gouvernaient l'établissement de la tolérance B chez l'homme. Et pour cela, en fait, on a étudié donc, les fréquences de lymphocytes B autoréactifs dans différentes populations lymphocytaires B au cours de leur développement, ici, donc dans la moelle et dans le sang d'individus sains. Et voici donc le résultat que l'on a obtenu, donc, où en fait, on s'est aperçu lorsqu'on a isolé, ce sont les fréquences ici de lymphocytes B que l'on appelle polyréactifs. Alors qu'est-ce que l'on appelle un lymphocyte B polyréactif? On a en fait trois antigènes de nature très différente, l'ADN de l'ADN, l'insuline comme une protéine ou l'hypopolysaccharide comme un carbohydrate complexe. Et en fait, vous voyez que en fait, ce sont ici, ça représente en fait des anticorps qui sont une reconnaissance promiscueux, c'est-à-dire qu'ils peuvent reconnaître beaucoup de choses à la fois. Et vous voyez que quand on reconnaît beaucoup de choses à la fois, ces clones-là sont éliminés très tôt durant le développement des lymphocytes B. On ne laisse pas ces genres d'anticorps circuler, probablement parce qu'ils reconnaissent beaucoup trop de choses et peuvent être dangereux. Donc, et vous voyez, et on a un deuxième test, ce sont des ELISA, qui nous permet en fait donc qui est en fait un LISA cellulaire, de cellules qu'on appelle HEP2, hépatocarcinome, qui, lui, du coup, contient un nombre de molécules ou d'antigènes beaucoup plus complexes, beaucoup plus importants, et qui permet, du coup, de détecter une proportion de lymphocytes B autoréactifs plus importante que ce que l'on obtient quand on teste seulement avec trois antigènes. Et vous voyez donc que l'on voit bien une première déplétion dans la moelle dès le début donc, de ces B autoréactifs. Et puis, lorsque l'on suit l'évolution de la fréquence des B autoréactifs, on s'aperçoit qu'il y a une deuxième sélection, cette fois-ci entre des cellules qu'on appelle new immigrant, parce qu'elles viennent de sortir de la moelle. On les appelle aussi des cellules B transitionnelles, et les lymphocytes B matures, qui ont une durée de vie assez longue de plusieurs mois. Et on voyait que donc il y a cette fois-ci une diminution donc, de cette fréquence des anticorps qui reconnaissent ces LISA de cellules HEP2. Donc, évidemment, maintenant, dans la plupart des situations que je vais vous présenter, on a accès simplement au sang, on n'a pas accès à la moelle des patients. Mais vous voyez que, bon, évidemment, pour déterminer si le deuxième checkpoint ici est étape de contre-sélection est fonctionnel, on a les deux populations qu'il nous faut. Mais puisque toute la polyréactivité est purgée et éliminée dans la moelle, si en fait on observe une augmentation de la polyréactivité dans les cellules transitionnelles, donc new immigrant, en fait cela voudra dire que en fait le premier checkpoint, le central bisatronance checkpoint, est défectif. Donc rien qu'en ayant le sang, on pourra déterminer à la fois si l'étape de contre-sélection centrale et périphérique est fonctionnelle. Alors, nous nous sommes intéressés aux mécanismes, c'est-à-dire aux molécules et donc pathways qui contrôlent. Donc, comment est régulé en fait comment sont régulées ces deux étapes de contre-sélection des lymphocytes B autoréactifs. Et en fait, on s'est tourné très tôt, en fait, même durant ma thèse déjà, on avait commencé à établir des collaborations avec le groupe d'Alain. Et donc, quand je suis parti aux États-Unis, en fait, je me souvenais que... Il y avait des patients très intéressants qui étaient là et qui, finalement, pouvaient nous donner un accès, peut-être des réponses intéressantes à ce genre de questions, puisque, en fait, ce sont des individus qui ont des défauts génétiques particuliers, qu'ils développent ou non des symptômes auto-immunitaires. D'ailleurs, souvent, ils développent des syndromes immunitaires, auto-immunitaires. Mais que ce soit le cas ou pas, c'est une très bonne méthode pour regarder si ce gène-là n'est pas fonctionnel. Est-ce que, du coup, on a encore une étape de contre-sélection dans la moelle ou en périphérie qui est fonctionnelle ou pas. Alors, on a, vous voyez, cette diapo est très chargée, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a beaucoup de patients avec des gènes mutés qui sont caractérisés et qui, où l'on a essayé ici de viser, vous voyez, donc ça c'est le récepteur des lymphocytes B, donc qui visait en fait des molécules dont on savait qu'elle médiait la fonction du lymphocyte B, qu'elle médiait aussi la fonction d'autres récepteurs qui s'appellent les toll-like receptors, qui sont aussi capables de s'associer à certains antigènes, comme par exemple les acides nucléiques, et en même temps aussi d'étudier des molécules qui sont très importantes pour les interactions entre les cellules B, par exemple, et les cellules T, ou simplement d'autres cellules que l'on appelle des cellules qui présentent les antigènes, puisqu'elles font le processing et le présentent à partir du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2. Et ainsi que vous venez de l'entendre, par exemple, des individus qui ont des mutations dans FOXP3 et qui donc n'ont pas de lymphocyte T régulateur fonctionnel, ou d'autres molécules, je ne sais pas si vous l'avez encore évoqué, par exemple la molécule R, qui est importante, par exemple, pour l'expression des peptides qui sont exprimés en périphérie, par exemple de l'insuline dans le thymus pour pouvoir sélectionner justement les lymphocytes T qui reconnaissent l'insuline par exemple comme des lymphocytes T régulateurs ou de les déléter. Voici un peu à quoi ressemble un peu quand on fait ces ELISA, à quoi ressemblent ces courbes. Donc là vous avez par exemple deux contrôles des individus sains. Ceci est donc l'anticorps qui est le contrôle positif. Et vous voyez que dans des individus sains, il y a très très peu d'anticorps qui s'associent, enfin qui peuvent reconnaître ces structures et qui sont de faible affinité. Par contre, ici, dans le cas des patients XLA, c'est-à-dire qui ont des mutations dans une molécule qui s'appelle BTK et qui est importante pour la signalisation du récepteur B, vous voyez en fait que là, dans ces cas-là, il y a beaucoup de clones qui sortent de la moelle et qui expriment des anticorps qui sont très polyréactifs, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent, en fait, si vous voyez les numéros, ce sont les mêmes, ceux qui sont les plus forts pour tous les antigènes. Donc, en fait, des anticorps qui ont une reconnaissance pas très spécifique, mais qui collent un petit peu à tout. Donc, maintenant, au lieu de vous montrer tous ces ELISA, maintenant, je vous fais cette diapositive, en fait, résume 15 ans d'études, puisqu'à chaque fois, à chaque fois, pour chaque gène muté, c'est en gros 3, 4 ou 5 patients étudiés à chaque fois. Et donc, je représente ici sur cette photo toutes les molécules en rouge sont en fait les molécules qui, quand elles sont mutées, stoppent, abrogent la tolérance B centrale. C'est-à-dire que quand les molécules sont en rouge, il y a beaucoup de lymphocytes B autoréactifs qui quittent la moelle et qui sont capables d'aller dans le sang. Et à ce moment-là, vous voyez que toutes ces molécules en fait, sont exprimées dans les lymphocytes B et que ce sont des molécules en fait, qui sont importantes pour la signalisation du récepteur des lymphocytes B, mais aussi apparemment, potentiellement, la signalisation de ces toll-like receptors. Au contraire, toutes les molécules qui sont représentées en gris sont des molécules qui, quand elles sont mutées, ne donnent pas de défaut de contre-sélection des lymphocytes B autoréactifs dans la moelle. Et vous voyez que cette fois-ci, les lymphocytes T régulateurs n'ont rien à faire dans le contrôle de la tolérance centrale, ni même les lymphocytes T tout court, puisque par exemple, on a obtenu des patients qui ont une mutation dans la molécule CD3, et quand il y a une mutation dans la molécule CD3, il n'y a pas le récepteur T ne peut pas signaliser et donc les lymphocytes T ne se développent pas dans le thymus. Il n'y a pas de lymphocytes T qui sort du thymus. Vous voyez que sans aucun lymphocyte T, les lymphocytes B savent très bien ce qu'ils doivent faire pour éliminer les clones autoréactifs dans la moelle. Et en, au passage, la présentation des antigènes, ou par le processing et le complexe majeur d'histocompatibilité, lui aussi ne joue pas un rôle dans la contre-sélection des lymphocytes B autoréactifs. Et donc, en fait, on pense vraiment que cette régulation est intrinsèque aux lymphocytes B, et que, comme Alain vient juste de vous le montrer avant pour les T régulateurs et en fonction de l'affinité du TCR qu'ils deviennent donc déplétés ou T régulateurs, pour les lymphocytes B, c'est un peu pareil. Sauf que cette fois-ci, donc dans une situation normale, il y a un seuil au-dessus duquel, si le lymphocyte B exprime un récepteur autoréactif, cette fois-ci, en fait, il va s'associer à un auto-antigène et il va signaliser le lymphocyte B immature dans la moelle et dire « je reconnais quelque chose ». Et à ce moment-là, il y a induction de mécanismes de tolérance centrale, en particulier ce qu'on appelle le récepteur editing, c'est-à-dire que le lymphocyte B va continuer à réarranger ces gènes des chaînes légères pour essayer en fait de changer la chaîne légère pour que quand elle s'associe à la chaîne lourde, en fait, elle va éliminer l'autoréactivité. Mais en fait, ce qu'il se passe dans ces patients que je vous ai montrés qui ont des défauts de lymphocyte B, enfin de signalisation du BCR et des toll-like receptors, en fait, quand l'auto-anticorps, cette fois-ci, qui est exprimé à la surface du lymphocyte B immature, s'associe aux auto-antigènes, en fait, il n'y a pas d'induction de signal, donc le lymphocyte B immature ne sait pas qu'il est autoréactif puisqu'il n'y a pas de signal qui lui dit d'induire ces mécanismes de tolérance. Et en fait, vous voyez qu'il y a une grande tranche, donc une grande proportion maintenant de lymphocytes B autoréactifs qui, au lieu d'être éliminés, en fait, restent dans le répertoire et en fait sortent de la moelle. Alors, je vais vous montrer, est-ce que l'on peut en fait corriger ces défauts? Alors, je vais vous montrer un exemple que ça peut être le cas. Et en particulier, c'est par les modèles de thérapie génique. Et ici, je vais vous présenter ça dans le cas des patients SCID avec mutation du gène ADA. Donc, ces individus, en fait, sont des enfants qui souffrent donc d'un défaut sévère très rare et qui est donc en fait qui résulte en fait par l'absence de développement de lymphocytes T, B et NK. Donc, vous voyez, et sans lymphocyte T, c'est le cas des enfants bulles, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles à toutes sortes d'infections parce qu'en fait, ils n'ont pas de système immunitaire adaptif qui leur permette de pouvoir lutter contre tout type d'infection. Et en fait, ce système est dû au fait que cette enzyme ADA est en fait une enzyme qui processe un métabolite qui est pour les acides nucléiques. Et en l'absence de cette enzyme, en fait, le substrat s'accumule et en fait est toxique et tue les lymphocytes T et B qui se développent. Et c'est pour ça que donc vous vous retrouvez avec un système qui n'a ni T ni B. Et donc le peu de lymphocytes B qui se développe dans ces individus, lorsque nous avons fait les études, donc avant thérapie génique, vous voyez qu'en fait, il y a une très grande fréquence de clones polyréactifs donc, qui sortent de la moelle qu'on perd au contrôle où il y en a très très peu. Vous voyez ici que la moyenne est aux alentours de 25%. Mais surtout, ce qui est particulièrement remarquable, vous voyez, c'est que vraiment ce qui fait la spécificité, j'allais dire, de la tolérance centrale, c'est vraiment l'élimination des spécificités, des reconnaissances des structures nucléaires. Et vous voyez que dans les individus normaux, il n'y a quasiment aucun clone qui sort et qui est capable de reconnaître des structures nucléaires, par exemple comme l'ADN ou les ARN. Alors que vous voyez que dans le cas de ces patients SCID ADA, vous voyez qu'il y a une très grande proportion de clones nucléaires. Et vous voyez que quand on fait les marquages de cellules pour regarder ce que ces anticorps reconnaissent, vous voyez qu'on reconnaît très bien les noyaux. Et à chaque fois, vous voyez que ces noyaux ont des patterns de reconnaissance différents, ce qui montre que ce sont différents antigènes qui sont reconnus à chaque fois par tous ces clones. Et pourquoi est-ce que cette spécificité antinucléaire en fait, est éliminée dès le début dans la moelle? C'est parce qu'en fait, je vous ai dit que les lymphocytes B expriment ce qu'on appelle des toll-like receptors, qui en particulier le toll-like receptor 7 et 9. Et ces toll-like receptors sont en fait des co-récepteurs qui sont capables de reconnaître les acides nucléiques par eux-mêmes. Et donc en fait, si le lymphocyte B exprime un anticorps qui reconnaît ces molécules, le jeu de cross-linking, donc d'association du BCR et du TLR, va faire que ces lymphocytes B vont être très très bien activés et vont en fait développer probablement des modèles auto-immuns. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a vraiment délétion de toutes ces clones dès le début dans la moelle. Et par exemple, ici, on a montré que, je vous ai dit, que puisque en fait, comment est-ce que ADA en fait, induit des défauts d'autolérance centrale. Je vous ai dit que ce sont le récepteur B et les récepteurs, donc les toll acceptors, qui sont importants pour l'établissement de la tolérance B. Et ici, on a pris des lymphocytes B normaux et on les a incubés avec de plus en plus grande concentration d'une molécule qui inhibe la fonction de l'enzyme ADA. Et vous voyez que quand on inhibe au plus la fonction ADA, vous voyez en fait que vos lymphocytes ne répondent plus, ces anti-IgM, ne répondent plus au récepteur B, ne répondent plus non plus au toll acceptor. CpG, c'est le ligand pour TLR9, et guardiquimone, un ligand pour TLR7. Donc vous voyez que, en fait, quand ce substrat toxique s'accumule dans les cellules ne sont plus capables, la signalisation du récepteur B et des toll acceptor ne marche plus, ce qui probablement résulte donc dans les défauts de tolérance centrale que je viens de vous présenter. Alors, la thérapie génique, qu'est-ce que c'est ici? Bon, c'est une petite diapo, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler avec toutes les émissions du Téléthon. En fait, ici, dans ce cas-là, donc, il s'agit d'un rétrovirus qui va en fait apporter une copie fonctionnelle du gène ADA. Et en fait, on prélève dans l'enfant donc, ces cellules souches et on va les infecter par ce virus qui va faire que, en fait, on va redonner à ces cellules en fait une copie fonctionnelle de ce gène qui normalement sinon ne marche pas. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'en regreffant les cellules souches qui ont été, certaines d'entre elles ont été corrigées par ces rétrovirus, en fait maintenant les lymphocytes B et T et ainsi que les autres cellules du sang vont se développer et vont maintenant cette fois-ci pouvoir exprimer un gène fonctionnel ADA. Et donc lorsqu'on l'a regardé, ce que l'on voit, c'est que après donc thérapie génique, vous voyez qu'en fait maintenant, ça c'est la zone où il y a des lymphocytes T dans les individus normaux. Donc on commence par des lymphocytes T qui sont absents, et vous voyez qu'après thérapie génique, les lymphocytes T apparaissent chez ces individus et peuvent arriver à des niveaux moyens. Pour les lymphocytes B, il semble que c'est peut-être un petit peu moins efficace. Vous voyez que là, c'est dans la zone basse. Mais bon, on arrive à peu près encore à voir l'apparition de lymphocytes B. Et ici, ce sont les lymphocytes T qui expriment tous la molécule ADA. Et vous voyez qu'en fait, ils l'expriment presque tous, alors que dans les B, il y a une partie encore des lymphocytes B qui ne sont pas tout à fait corrigés. Certains peuvent se développer en l'absence de la production de la molécule ADA. Mais bon, voilà la diapositive maintenant qui nous intéresse maintenant, c'est-à-dire est-ce que la thérapie génique peut corriger les défauts de tolérance centrale? Et la réponse est oui. Vous voyez que dans tous les patients, en fait, il y a une très grosse diminution maintenant de la production d'anticorps, de cellules B polyréactives, ce qui suggère qu'il y a une amélioration de cette étape de contre-sélection de ces clones. Mais surtout, je crois que ce qui est quand même le plus marquant, c'est qu'il n'y a plus aucun, quasiment, cellule B qui sort de la moelle et qui est capable de reconnaître des structures nucléaires. Et vous voyez que maintenant, toutes les structures qui sont reconnues sont des structures cytoplasmiques dans un système qui est normal quand on voit des fois des structures ici, mais il n'y a plus aucune, maintenant, lymphocyte B, après correction par thérapie génique, qui reconnaît ces structures nucléaires, qui étaient le caractéristique donc, des patients avant gène thérapie. Donc, je vous ai parlé un petit peu maintenant d'abord de la tolérance centrale. Maintenant, quels sont les molécules et les cellules les chemins de signaling qui sont capables donc d'établir la tolérance B périphérique, c'est-à-dire le deuxième checkpoint, celui qui s'opère non pas dans la moelle, mais en périphérie. Et je les ai représentés ici en bleu. Et vous voyez en fait ici maintenant que ce n'est plus du tout la même histoire, et que ce sont des mécanismes complètement différents qui contrôlent l'élimination des lymphocytes B autoréactifs en périphérie par rapport à ce que l'on avait vu d'abord en rouge dans la moelle. Et en particulier, ce que vous voyez, c'est que ce sont surtout des molécules qui ont l'air d'impliquer les lymphocytes T, c'est-à-dire que les lymphocytes T, puisque CD3 est essentiel pour le développement de lymphocytes T, maintenant vous voyez que ces individus, s'il n'y a aucun lymphocyte T, cette fois-ci, les lymphocytes B autoréactifs s'accumulent en périphérie, ce qui démontre que les lymphocytes T sont responsables, en fait, préviennent en fait l'accumulation de lymphocytes B en périphérie. Et ce ne sont pas n'importe quels lymphocytes T. Je vais vous montrer d'autres évidences qui suggèrent qu'en fait, ce sont les fameux lymphocytes T régulateurs, dont justement Alain, c'est pour ça que le timing est parfait. Ce sont en fait ceux-là qui, on pense, ont un rôle justement pour prévenir et évite la production de lymphocytes B autoréactifs en périphérie. Et voilà par exemple ici l'exemple donc de 4 patients qui ont des mutations dans le gène FOXP3, d'accord, donc qui sont des patients qu'on appelle IPEX. Et donc vous voyez que c'est peut-être ici, le résumé est ici, vous voyez que tous les individus sains donc, contre-sélectionnent en périphérie toute une partie des lymphocytes B autoréactifs qui avaient évité la tolérance, qui avaient échappé à la tolérance centrale. Mais vous voyez que dans le cas des patients qui ont des mutations de FOXP3, en fait, cette contre-sélection ne s'opère pas. Et c'est même plus qu'elle ne s'opère pas. Vous voyez que ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que les lymphocytes B polyréactifs sont éliminés dans la moelle, cette fois-ci, dans les patients IPEX, ils réapparaissent en périphérie, ce qui suggère que c'est pas simplement, cette deuxième étape n'est pas simplement d'éliminer des lymphocytes B autoréactifs, mais peut-être encore plus de prévenir une sélection positive, c'est-à-dire apparemment les lymphocytes B autoréactifs semblent avoir un avantage de sélection en périphérie si les lymphocytes T régulateurs ne sont pas fonctionnels. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de réémergence des clones antinucléaires. Ils étaient bien éliminés dans la moelle, ils ne réapparaissent pas en périphérie et il n'y a pas d'anticorps antinucléaires sécrétés dans ces patients qui n'ont pas de T régulateur fonctionnel. Donc, tout ce que je vous ai montré ici, ça nous a donné un peu des indices, ce qui contrôlait la tolérance B centrale, ce qui contrôle la contre-sélection des lymphocytes B en périphérie, mais ce qui nous intéressait quand même au début, notre question au départ dans le labo, c'était quand même de savoir, dans le cas des maladies, de patients qui ont des maladies auto-immunes, on sait qu'il y a production d'auto-anticorps, on sait qu'il y a production de lymphocytes B auto-réactifs, mais est-ce que ces lymphocytes B auto-réactifs dérivent de défaut de ces étapes de contre-sélection, que ce soit dans la moelle ou en périphérie, ou est-ce qu'ils sont générés par des mécanismes de mutation somatique qui s'opèrent normalement dans les centres germinatifs et beaucoup plus tard durant le développement des lymphocytes B. Alors, encore donc, une diapo de résumé. Ce que je voulais dire, c'est que la plupart de ces patients ont tous été recrutés alors qu'ils n'étaient pas traités, pour éviter évidemment justement l'influence du traitement qui pourrait influencer nos résultats. Et donc, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, quasiment tous les patients avec les maladies auto-immunes, c'est-à-dire le diabète juvénile, l'arthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérodermie et le syndrome de Sjögren, tous ces individus ont des défauts d'autolérance centrale, c'est-à-dire que tous ces patients ne sont pas capables de, en fait, reconnaître les auto-antigènes dans la moelle, et tout du moins, il doit y avoir des problèmes de signalisation qui font qu'en fait, ils ne voient pas bien ces auto-anticorps, enfin ces auto-antigènes, et en fait, ils autorisent tous ces lymphocytes B auto-réactifs à passer dans le sang. La seule maladie auto-immune pour l'instant où nous avons vu que dans la majorité des cas, 5 sur 7, les patients n'avaient pas de défaut de tolérance centrale, sont en fait les patients atteints de sclérose en plaques. Où donc là, il semble qu'il n'y a pas de défaut de tolérance centrale. Mais je vous ai dit que pourtant, les thérapies qui éliminent les lymphocytes B marchent, donnent des effets très positifs, donc très bénéfiques dans les patients qui ont la sclérose en plaques. Donc pourquoi ? Et en fait, il s'avère que pour les patients de la sclérose en plaques, le défaut est un défaut spécifique qui est le défaut de la deuxième étape de contre-sélection. Vous voyez, tout était OK pour la plupart des patients en sclérose en plaques dans la moelle, mais dès qu'on sort en périphérie maintenant, il y a des défauts, donc ça, en fait, ça ressemble à ce que je vous ai montré pour les patients qui ont des défauts de lymphocytes T régulateurs. Et pour tous les autres, il y a aussi probablement, il a été déjà décrit dans la littérature, des défauts potentiellement de lymphocytes T régulateurs aussi. Et donc, vous voyez qu'en fait, tous les patients qui ont des maladies auto-immunes, ils sont tous caractérisés par une production, par une absence d'élimination des lymphocytes B autoréactifs qui s'accumulent dans leur sang. Et on pense que c'est ça qui, en fait, permettrait le développement des maladies auto-immunes, parce que vous voyez, comparé à des contrôles, vous avez 2 à 3 fois plus de lymphocytes B autoréactifs. Et là, je ne parle que de la quantité. Il y a évidemment aussi des phénomènes de qualité qu'on a du mal à apprécier avec les méthodes que nous utilisons pour faire ces analyses. Mais vous voyez que dans ces cas-là, on pense que cette grande proportion de lymphocytes B autoréactifs peuvent en fait justement maintenant reconnaître des antigènes du soi et pouvoir les présenter aux lymphocytes T, et nous pensons que en fait elles sont un peu peut-être les initiateurs ou les instigatrices, en fait, justement, du début des phénomènes auto-immuns qui se passent chez ces patients. Alors, maintenant, est-ce que ces défauts que je vous présente, même si je vous ai dit que les patients, on les avait recrutés alors qu'ils n'étaient pas traités, ce qui veut dire que souvent on les a recrutés alors qu'ils venaient d'être diagnostiqués, est-ce qu'en fait ces défauts sont primaires ou secondaires à la maladie? Puisque évidemment, quand on a déjà ces patients, ils ont déjà eu souvent des productions d'auto-anticorps pendant des années. Et en fait, on a eu une réponse en étudiant un variant d'un gène qui est très associé à ces maladies auto-immunes et qui s'appelle PTPN22, qui est une phosphatase. Alors, je peux vous dire que quand le gène est sorti, la tête que vous faites, c'était la même pour la mienne, parce que je n'en avais jamais entendu parler non plus. C'est un gène qui est devenu un peu plus connu à cause de cette association, justement, par les maladies donc auto-immunes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des études ont essayé de voir quels sont les variants de gènes qui s'associaient préférentiellement dans les individus qui développaient les maladies auto-immunes. Le premier gène dont on savait, c'était les gènes du complexe du majeur, des complexes de MHC. Mais le deuxième gène qui sort en haut de la liste et qui favorise les maladies auto-immunes, en fait, c'est ce gène PTPN22, et en particulier un variant de ce gène qui augmente, qui en gros quasiment double votre chance de développer des maladies auto-immunes, mais pas n'importe quelle maladie auto-immune, l'arthrite rhumatoïde, le lupus et le diabète juvénile, mais pas la sclérose en plaques. Ce gène, en fait, il n'est pas si rare que ça, ce variant, j'allais dire, le variant de ce gène n'est pas si rare que ça, puisque en fait, il représente entre 3 à 12% donc des individus des européens, et il y a un gradient nord-sud, c'est-à-dire que si vous êtes si vos ancêtres sont plutôt scandinaves, vous allez avoir entre plutôt 12 à 15% de chances d'avoir ce variant. Par contre, si vous êtes d'origine plutôt italienne, alors à ce moment-là, il y en a très très peu, il n'y a plutôt que 3%. En France, on est à peu près aux alentours de 7-8%. Et en fait, il s'avère que ce variant semble en fait produire une phosphatase qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas normale et qui en fait bloque un peu la signalisation du lymphocyte T. Mais aussi, de façon intéressante, potentiellement du lymphocyte B. Évidemment, quand je vous ai dit que la signalisation du lymphocyte B était importante pour la sélection des lymphocytes B, vous voyez où je veux en venir. C'est qu'en fait, maintenant, on a donc recruté des individus asymptomatiques qui ont l'air sains. On a isolé le lymphocyte B. On a fait la même étude que l'on a fait auparavant pour les malades ici diabète de type juvénile, qui porte l'allèle, donc le risque allèle, le variant qui est associé aux maladies, c'est le T. Le C, c'est l'allèle commun qui ne donne pas de phénotype. Et vous voyez que cette fois-ci, il suffit d'avoir une seule copie de ce variant pour avoir des lymphocytes B qui sont aussi autoréactifs que quand vous avez des individus qui ont le diabète ou l'arthrite rhumatoïde. Et vous voyez que les deux étapes de contre-sélection sont affectées, que ce soit les cellules qui sortent de la moelle et qui sont très enrichies en clones polyréactifs, ou que ce soit les cellules qui s'accumulent dans le compartiment mature naïf, et où là, vous voyez qu'il y a une élévation de la fréquence des clones qui reconnaissent le LISA des cellules HEP2. Donc, ces individus, en fait, la majorité ne développent jamais de maladies auto-immunes. Certains d'entre eux ont dépassé maintenant la soixantaine, ils n'ont pas d'auto-anticorps, ils n'ont pas de maladie auto-immune. Donc c'est pour vous dire que même en ayant des fréquences de lymphocytes B autoréactifs élevées, vous pouvez vivre de façon tout à fait normale et ce n'est pas pour autant que tous les individus vont développer des maladies auto-immunes. D'accord ? Mais vous voyez que comme ces défauts en fait, sont là chez ces individus sains où ils n'ont pas de maladie auto-immune, cela suggère très fortement qu'en fait ces défauts de sélection ou d'élimination des lymphocytes B autoréactifs dans les maladies auto-immunes, en fait, précède le développement de ces maladies, puisqu'en fait, elles sont déjà existantes dans ces individus pour lesquels, la plupart du temps, il ne se passera rien. Alors, quand on a fait ces études, il y avait toute une liste donc, de gènes. Ça, c'était le gène qui est, au passage, gène numéro 2. Au passage, pour vous dire que ce gène-là est quand même très intéressant, parce que, par exemple, c'est le gène FOXP3 contrôle l'expression de ce gène. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas un gène anodin, c'est pas un gène qui... Dans les T, ce gène est exprimé dans les lymphocytes B, dans les lymphocytes T, et vous voyez qu'en particulier pour le développement des lymphocytes T régulateurs, il est très clair que ce gène PTPN22 va jouer un rôle potentiellement important justement dans la sélection, on pense, du répertoire, donc des récepteurs T, des lymphocytes T régulateurs. Et donc dans la liste, après, il y avait toute une liste d'autres gènes, donc le complexe majeur d'histocompatibilité est en numéro 1, PTPN22 justement était en numéro 2, puis après il y a toute une autre liste, donc on s'est dit, ben évidemment, on va tester tous les autres gènes qui sont associés à ces maladies génétiques, tous ces variants, et on va probablement trouver la même chose, que donc il va y avoir des défauts. Et en fait, il s'est avéré que quand on a regardé toutes les autres listes, on a commencé à génotyper nos individus sains qu'on avait déjà analysés, et on s'est avéré que ces individus, en fait, ils étaient déjà porteurs de ces variants, même homozygotes pour ces variants, ce qui suggère qu'en fait, ces variants, par eux-mêmes, tout seuls, ne sont pas capables d'induire les défauts de contre-sélection des lymphocytes B que l'on trouve associés aux maladies auto-immunes. Donc on s'est dit, si vous croyez les gens qui ont fait toutes ces études, ils vous disent, mais ces variants, en fait, ceux-ci, malgré tout, ils avaient une pénétrance qui était beaucoup plus faible, d'accord, le risque que ces variants confèrent pour développer les maladies auto-immunes était beaucoup plus faible que celle, par exemple, pour le gène PTPN22. Donc, ils vous disent, il faut que vous ayez une accumulation de ces chances pour développer, pour que finalement, la somme de tout va faire que vous allez peut-être avoir maintenant des risques. Et on a commencé maintenant à trouver, on a trouvé un individu sain qui était homozygote pour les variants, pour le gène BLK et BANK1, qui sont des gènes dans la signalisation du récepteur B. Et vous voyez que même l'accumulation de ces défauts n'induit toujours pas de défauts de sélection B. Donc, pour avoir cette association, c'est déjà moins de 0,5% de la population. Il y a quasiment 5% de maladies auto-immunes. Donc, il faut rajouter encore beaucoup d'autres allèles potentiellement pour voir le défaut. Donc, je commence à douter que... Parce que ces gènes qui sont identifiés, ces variants qui sont identifiés, en fait, sont des variants qui sont censés être communs dans la population. C'est-à-dire que pour eux, pour que les gens puissent les détecter, il faut qu'il y ait au moins une fréquence de 5% dans la population. Donc, je commence à douter qu'en fait, il y a un variant qui soit assez commun, à part celui dans le gène PTPN22, qui puisse à lui seul donner les défauts de sélection B dont je viens vous parler. Donc, quelque part, si ce ne sont pas des gènes communs qui donnent qui augmentent vos chances de développer des maladies auto-immunes, c'est peut-être parce que ces gènes sont rares. Et je vais vous donner des exemples. L'avantage, vous voyez, c'est que quand on a étudié donc les malades avec les maladies génétiques dont je vous ai parlé, c'est qu'effectivement, quand vous étudiez leurs parents, donc ils ont en général, la plupart de ces défauts sont des défauts où il faut que les deux allèles, ce sont la plupart du temps des défauts récessifs, c'est-à-dire qu'il faut que les deux allèles soient non fonctionnels pour voir les maladies. Et donc, en fait, pour trouver si un seul allèle donne un phénotype, en fait, il n'y avait qu'à analyser les parents de ces individus, puisque les parents sont porteurs de la mutation, mais comme les parents ont une copie du gène sain, donc ils n'ont pas les maladies par lesquelles sont accablés leurs enfants. Mais vous voyez que tous ces individus, qui la plupart du temps sont normaux, asymptomatiques, ont des défauts de contre-sélection des lymphocytes B quasiment aussi importants que quand on regarde quand les deux variants, les deux gènes, enfin les deux allèles sont mutés. On trouve ça, c'est pour la maladie CD19. Ah, ici, je vois qu'il y a un problème de compatibilité. C'est la seule diapo en général où j'ai des problèmes. Ça, c'est pour le gène TACI, et c'est exactement la même chose. Même pour le gène AID, pareil. Donc, là, on voyait que donc, les porteurs sains hétérozygotes, il semble même qu'il y a une sorte de dosage. C'est-à-dire que si vous avez une copie non fonctionnelle, vous commencez à avoir plus de lymphocytes B autoréactifs qui sortent de la moelle. Si vous avez deux copies non fonctionnelles, il y en a encore plus qui sort de la moelle. Donc c'est pour vous dire que finalement, maintenant on a des résultats préliminaires qui suggèrent que être hétérozygote pour une mutation d'un allèle, par exemple de IRAK4, donc IRAK4 ou MYD88, donc MYD88, vous donne exactement ce phénotype-là aussi. Donc en fait, on commence à avoir beaucoup d'exemples que des mutations rares qui donnent des pertes et qui probablement résultent de ce qu'on appelle les haploinsuffisances, c'est-à-dire les haploinsufficiency, c'est-à-dire avoir un seul gène fonctionnel n'est peut-être pas suffisant. Vous ne produisez pas assez de la protéine en fait, pour pouvoir totalement établir la fonction que cette protéine normalement a dans la cellule. Bon, je vais passer ça. Donc, maintenant, je vous ai montré... tout ce que je vous ai montré, en fait, c'était par l'étude de patients, ou donc qui ont des déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes. Mais en fait, tout ce que je peux pour l'instant vous avoir montré, ce sont des corrélations. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un gène défectueux, on voit qu'il y a des défauts, ou les individus ont des maladies auto-immunes et on voit des défauts de sélection des lymphocytes B, mais je n'ai jamais pu vous démontrer que c'est vraiment ce défaut qui induit donc, le phénotype que l'on voit. Et donc, pour essayer de répondre à ces questions et essayer de comprendre encore mieux les mécanismes qui gouvernent la contre-sélection des lymphocytes B autoréactifs, on s'est tourné sur des modèles de souris humanisées qui pourraient essayer de recréer en fait, ces étapes de contre-sélection. Et on s'est en fait intéressé, on a essayé d'étudier deux modèles de souris humanisées. Alors, qu'est-ce que sont les souris humanisées? En fait, on collecte, on enrichit les cellules souches à partir de foie fœtal humain ou de moelle fœtale humaine. Et en fait, on les greffe dans des souris qui sont des souris qui n'ont pas de système immunitaire. Ici, NSG, c'est l'abréviation pour Not Skid Common Gamma Chains. Donc, ces souris n'ont ni lymphocyte T, ni lymphocyte B, ni cellules NK. Et en fait, en greffant ces cellules souches dans les souris, en fait, ces cellules souches vont se développer et vont produire des lymphocytes T et des lymphocytes B humains dans la souris. Et donc, là, c'est donc le premier modèle. Et le deuxième modèle, donc comme je vous ai montré qu'on pensait que les lymphocytes T régulateurs pouvaient être importants pour la régulation de la deuxième étape de contre-sélection des lymphocytes B en périphérie. Donc, les lymphocytes T, normalement, se développant dans le thymus, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de greffer une petite partie donc, du thymus fœtal que l'on récupère en même temps que les cellules souches dans ces souris pour qu'à ce moment-là, les lymphocytes T qui vont se développer vont pouvoir se développer cette fois-ci sur le thymus humain au lieu, dans ce cas-là ici, où ils vont se développer dans le thymus murin. Et après 3 à 4 mois, les lymphocytes B et T se développent et on peut à ce moment-là analyser donc, comment s'effectue la sélection des lymphocytes B. Alors, c'est pour vous montrer un exemple. Vous voyez, on met une toute petite partie de thymus et vous voyez, bon, ça évidemment, c'est la plus belle photo qu'on a, donc je ne vais pas vous montrer le plus moche. Mais c'est pour vous dire que quand on met une toute petite bout de thymus, on peut avoir un thymus qui se développe et qui, vous voyez, en dessous, là, c'est en fait le rein de la souris. Donc, vous voyez qu'on peut avoir un thymus qui est encore plus gros même que le rein de la souris. Et ce thymus est fonctionnel parce que, vous voyez, quand on isole les lymphocytes de ce thymus, on voit qu'il y a beaucoup de lymphocytes T. La majorité des lymphocytes T sont ce qu'on appelle les lymphocytes T double positifs, c'est-à-dire qu'ils expriment les molécules CD4 et CD8, ce qui est caractéristique des lymphocytes T immatures. Donc, les lymphocytes T se développent bien dans ce greffon humain. Et si maintenant on regarde donc, comment s'établit la tolérance B centrale, ce que l'on s'en aperçoit, c'est que en fait, vous voyez que tout se passe très très bien, que vous ayez greffé le thymus humain ou pas. C'est-à-dire que les lymphocytes B humains qui se développent dans les os donc de souris, a priori, voient très bien les auto-antigènes et savent très bien ce qu'elles ont à faire sans avoir besoin d'avoir d'aide de quoi que ce soit. Et donc, les lymphocytes B qui sortent donc, et qui s'accumulent dans la rate de ces souris, vous voyez, ont été tout à fait normalement... les clones auto-réactifs ont été normalement purgés et tout est tout à fait normal. Ça, c'est un deuxième test. Et en fait, il semble même qu'il y ait un petit peu moins de réactivité contre les molécules HEP2, mais ça, c'est dû à un biais de répertoire, en fait, qui ressemble un petit peu à un répertoire un peu plus fœtal. Maintenant, ce qui est intéressant, on s'est dit, donc je vous ai dit, est-ce qu'on pouvait utiliser ce système pour mimer les défauts que l'on a vus de sélection dans les patients qui ont des maladies auto-immunes? Donc, pour ça, on a récupéré des cellules souches d'un patient qui a un lupus. Et donc, la patiente a donné de la moelle, on a isolé les cellules souches et on les a greffées donc, dans ces souris. Mais entre-temps, on a aussi obtenu en même temps le sang de cette patiente et vous voyez que quand on a fait l'analyse de la tolérance centrale dans le sang de cette patiente, vous voyez que les lymphocytes B ne sont pas sélectionnés normalement, ce que je vous ai déjà démontré avant pour 3 patients lupiques, que l'on utilise soit le test de polyréactivité ou le test de HEP2, à chaque fois, vous voyez qu'il y a une élévation de la fréquence des clones autoréactifs. Et maintenant, je vais vous montrer, quand les lymphocytes B se développent dans les souris humanisées, eh bien, on observe exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on transplante les cellules souches dans ce modèle-là, les lymphocytes B qui se développent aussi mal que quand elles se sont développées dans le patient. Alors, c'est un résultat. Alors là, c'est pour l'instant, je vous en présente, c'est qu'une seule, d'accord ? C'est donc, on pourrait dire que ce sont des résultats préliminaires. Mais c'est quand même assez important dans le sens où, dans les patients qui ont le lupus, il y a beaucoup de... on pourrait dire que peut-être ces défauts résultent de la production de cytokines inflammatoires ou de la présence d'auto-anticorps, de complexes immuns, etc. Alors vous voyez que dans ces souris-là, il n'y a pas du tout d'inflammation, il n'y a pas du tout, il n'y a pas d'auto-anticorps, il n'y a rien. Et vous voyez que malgré tout, tout se développe toujours aussi mal. Oui ? Alors, effectivement, donc on ne sait pas si ce sont dus à des défauts. Par exemple, je vous ai montré que... Alors, pour l'instant, on a des évidences qui suggèrent que, par exemple, si vous êtes... Alors justement, on ne sait pas encore... On a des évidences qui suggèrent, par exemple, que vous avez des allèles qui favorisent, par exemple, pour le PTPN22. Si les cellules souches ont le PTPN22, tout va mal. Donc, une fois de plus, ça montre cette fois-ci un défaut génétique, c'est-à-dire que là, vous avez un variant qui est associé à l'auto-immunité et par lui-même suffit pour vous donner le défaut.
Parce qu'à capital génétique identique, ce qui va faire que l'une va développer, je pense que c'est beaucoup lié à l'environnement.
Alors, peut-être pas. Il va falloir qu'on le teste et c'est justement ça l'idée. Ce que je vais montrer ici, c'était le lupus. Je vais vous montrer un autre exemple. C'est on a eu des cellules souches d'un patient qui a le diabète juvénile. Exactement le même défaut, alors que tout le reste, je vous ai dit, c'est là. Ici, par exemple, c'était cette fois-ci de la moelle d'un adulte. Vous voyez qu'avec la moelle d'un adulte, c'est aussi normal, mais dès qu'on met encore des cellules souches, cette fois-ci d'un patient diabétique, vous voyez que les lymphocytes B, une fois de plus, ne se développent pas normalement dans la moelle. Donc clairement, il y a... Alors maintenant, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est que du coup, comme maintenant on a des modèles où on récapitule les défauts qui sont associés à ces maladies auto-immunes. Maintenant, effectivement, ce qui nous intéresse le plus, ça va être d'essayer d'utiliser des stratégies pour corriger ces défauts. Et on a déjà, effectivement, isolé une molécule qui nous permet de rendre un individu qui est comme ça, de le rendre comme ça. Donc, on est en train de tester encore plus, maintenant, ces molécules, mais c'est pour vous dire qu'on va pouvoir peut-être influencer à la source, donc, ces défauts. Bon, on va essayer de faire celui-là. Ça va, c'est bon. Donc, je vais vous montrer aussi maintenant qu'on peut essayer de manipuler le système. C'est-à-dire, maintenant, je vous ai dit que MyD88, c'est une molécule c'est une molécule qui est très importante pour la signalisation des toll-like receptors. Et on a publié récemment que, en fait, le pathway qui fait la signalisation de ces récepteurs, en fait, sont intégrés avec ceux du récepteur B. Et donc, je vous ai dit que les patients qui avaient des défauts du gène MyD88 avaient des défauts de tolérance B centrale, c'est clair, et je vous ai dit que c'était B intrinsèque, mais je ne vous ai jamais démontré ça, parce qu'en fait, MyD88 est exprimé dans toutes les cellules. Donc, est-ce que c'est vraiment dans les lymphocytes B qu'il faut qu'il y ait MyD88, ou est-ce que c'est un défaut de MyD88 dans un autre type cellulaire et que finalement les défauts sont de conséquence. Donc pour en fait répondre à la question est-ce qu'il faut vraiment que MyD88 soit exprimé dans le lymphocyte B pour que la contre-sélection des clones autoréactifs se produise normalement, en fait on a développé une stratégie justement avec ces souris humanisées où en fait donc, on a les cellules souches et en fait ces cellules souches on va les infecter. C'est en fait la même stratégie que pour la thérapie génique. Mais cette fois-ci, au lieu d'essayer de guérir ou de rendre une copie normale du gène, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer l'expression d'un gène. Et la façon dont on l'élimine ici, c'est en fait par l'expression de ce qu'on appelle les short hairpin RNA, c'est-à-dire des ARN de petite taille qui s'associent aux ARN d'un gène spécifique et qui font la dégradation de cet ARN. Donc, du coup, la cellule n'exprime plus la molécule d'intérêt. Et donc, évidemment, pour reconnaître un peu, j'allais dire, nos petits, parce que toutes les cellules souches ne sont pas marquées, il y a donc cette fameuse molécule, donc Green Fluorescent Protein, cette molécule qui fluoresce en vert, qui est souvent utilisée comme stratégie. Donc en fait, les cellules qu'on va sélectionner qui seront vertes n'auront plus l'expression ou auront une expression très diminuée donc de MyD88 par rapport à la même souris, ou que les cellules blanches, donc eux, auront une expression de MyD88 normale. Donc, voilà ce que l'on obtient. On isole les cellules des souris et vous voyez qu'effectivement, une certaine proportion de lymphocytes B, donc de ces souris, expriment la GFP et une autre proportion ici ne l'exprime pas. Et donc, on a isolé ces deux types de cellules pour vérifier maintenant si on isole ça, si on regarde la contre-sélection des lymphocytes B autoréactifs, est-ce qu'ils sont éliminés ou pas. Déjà, ce que l'on a observé, c'est que les cellules qui n'expriment pas, ou tout du moins qui expriment moins MyD88, et donc qui expriment la GFP, ne répondent pas aussi bien aux stimulations par les Toll-like receptors que les cellules qui l'expriment. Vous voyez en particulier ici pour Toll-like receptor 9, vous avez une bonne up-régulation, une bonne activation par l'expression de CD25 et un peu de TACI ici. Vous voyez qu'ici, dans Taylor 9, il y a de l'activation. Dans les cellules qui viennent de la même souris, il y a beaucoup moins d'induction, d'activation que ce que l'on voit dans les... quand MyD88 est exprimé. Et maintenant, quand on regarde en fait ce qui se passe, ben vous voyez que maintenant, si on abolit l'expression ou qu'on diminue l'expression de MyD88, vous voyez maintenant que l'on augmente la fréquence des lymphocytes B autoréactifs comparé à dans la même souris, les cellules qui n'expriment pas le shRNA et qui, eux, donc, ont des fréquences de clones autoréactifs qui sont beaucoup plus faibles. Et ce n'est pas dû simplement à un phénomène qui n'est pas spécifique, puisque si cette fois-ci, on transduit les cellules souches avec un shRNA qui ne code pour rien, enfin qui est scramble, c'est-à-dire qui n'est pas spécifique pour MyD88, vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc vraiment, ces résultats indiquent qu'en fait, il faut vraiment que la molécule MyD88 et donc les Toll-like receptors doivent fonctionner dans les lymphocytes B qui se développent pour pouvoir éliminer ces lymphocytes B autoréactifs. Donc ça, c'est pour la polyréactivité. Pareil, on voit donc une augmentation de la polyréactivité quand MyD88 est éliminé. Maintenant, est-ce qu'on arrive, par ces modèles de souris humanisées, à récapituler la deuxième étape de contre-sélection des lymphocytes B, c'est-à-dire celle qui s'opère en périphérie et qui semblait être contrôlée par les lymphocytes T régulateurs. Et alors là, tout dépend de la présence d'un thymus humain. Vous voyez ici. Donc ici, chaque point est une souris qui a été greffée par un donneur différent. Donc vous voyez, c'est 5 donneurs différents. Et cette fois-ci, vous voyez que s'il y a un thymus humain dans ce modèle, donc il n'y a pas d'accumulation de lymphocytes B autoréactifs en périphérie. Par contre, les mêmes cellules souches qui se développent cette fois-ci dans un thymus de souris ne sont pas capables de prévenir l'accumulation des lymphocytes B autoréactifs. Et vous voyez cette fois-ci, une fois de plus encore, je pense que c'est vraiment de prévenir une sélection positive de ces lymphocytes B, parce que vous voyez, au début, tout est pareil, puisque tout ce qui sort de la moelle est exactement identique entre les deux. Et ici, vous voyez qu'il y a peut-être une légère diminution, mais ce qui est clair, c'est que quand les lymphocytes T ne se développent pas dans le thymus, cette fois-ci, vous avez les lymphocytes B autoréactifs sont favorisés donc, et s'accumulent en périphérie dans ces souris. Donc ça, c'est en utilisant l'ELISA pour la reconnaissance des ELISA HEP2. Et vous voyez que pour la polyréactivité, c'est exactement pareil. Donc il y a accumulation de clones polyréactifs en périphérie, alors que la présence d'un thymus humain permet l'élimination ou prévient l'accumulation de ces lymphocytes B autoréactifs. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être parce que les lymphocytes T régulateurs ne se développent pas aussi bien dans les deux modèles. Alors, il ne semble pas que ce soit le cas, parce que quand on regarde la fréquence des lymphocytes T régulateurs, vous voyez que, qu'il y ait un thymus humain ou pas, la fréquence est à peu près la même dans les deux, que l'on regarde par certains marqueurs ici, et on voit même que l'expression de FOXP3 donc, semble même un petit peu meilleure dans ces souris humanisées que ce que l'on voit même dans les lymphocytes T régulateurs que l'on isole directement dans le sang d'individus sains. Quand on regarde un peu de plus près, une fois de plus, on voit que certains marqueurs très spécifiques, ou tout du moins qui permettent l'identification des T régulateurs, semblent à peu près pareils, que ce soit donc ici pour CD25, CD128, 127. Pour CD45RO, il semble qu'il y en ait un petit peu plus dans ces cellules T régulateurs quand il n'y a pas de thymus humain, ce qui suggérerait que peut-être c'est un marqueur un peu d'activation, ou que ces cellules ont été activées. Et CTLA4, qui est aussi une molécule importante pour la suppression, semble très très bien activée. C'est ce qui suggère que ces lymphocytes T régulateurs sont activés. Mais pour l'instant, pas vraiment de différence entre qu'il y a une présence de thymus humain ou pas. Donc on a regardé la fonction de ces lymphocytes T régulateurs. Et là, une fois de plus, ce que l'on voit, c'est... Donc ici, voilà, comment ça se présente. On baigne les lymphocytes T dans un le CFSE, c'est un colorant hydrophobe qui se met dans les membranes et qui fluoresce en vert. Et en fait, une fois qu'on va activer les lymphocytes T, et chaque fois que les lymphocytes T vont se diviser, en fait, vous allez perdre la moitié du colorant. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est une échelle logarithmique. Donc, à chaque fois, ici, c'est... Donc, les cellules ne sont pas divisées. Première division, deuxième division, troisième division, quatrième division. À chaque fois, vous perdez la moitié donc, de la fluorescence qui était apportée au début. Et en fait, vous voyez que quand on active lymphocytes T, donc les lymphocytes T prolifèrent, si on met maintenant des T régulateurs qui sont isolés d'un individu sain, vous voyez qu'il n'y a plus de prolifération, donc ils bloquent ces proliférations. Si on prend les T régulateurs qui sont développés en présence d'un thymus humain, vous voyez qu'ils sont aussi bons, sinon même meilleurs, que ce qu'on a isolé d'un individu sain. Par contre, si on utilise les T régulateurs qui se sont développés sur un thymus de souris, vous voyez qu'ils ne suppressent rien du tout. Donc, ils ne sont pas fonctionnels. Et donc, ça, c'est ici, ça, c'est le résumé de ces expériences. Vous voyez qu'en fait, dans un système autologue, c'est-à-dire les régulateurs viennent des souris NSG, les T-responders viennent des souris NSG, vous voyez qu'en fait, ces régulateurs ne suppressent pas la prolifération des T, alors que ceux qui se sont développés sur un thymus humain sont tout aussi bons que ceux qui se sont développés, donc qui sont isolés dans les individus sains. Quand on teste les T régulateurs sur les T responders qui sont isolés d'individus sains, vous voyez qu'en fait, on reproduit exactement le même scénario ici. Et ici, c'est pour vous montrer comme contrôle que si on prend des T régulateurs qui sont isolés de sang d'individus asymptomatiques, eux, évidemment, sont toujours capables de suppresser donc, la prolifération même de ces T qui, ici, ne sont pas capables d'être suppressés par les T-reg, donc de ces souris, qui se sont développés dans des thymus murins. Bon, donc, une fois de plus, ça suggère, comme ce qu'on avait vu avant, qu'il semble qu'il faut des T-régulateurs fonctionnels pour pouvoir prévenir l'accumulation de lymphocytes B autoréactifs en périphérie. Mais on n'a toujours pas répondu à la question, est-ce que ce sont vraiment les T-régulateurs qui sont responsables du contrôle de ce checkpoint? Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, justement, dans ces souris humanisées, on peut injecter des molécules, on peut faire des systèmes. Et justement, là, on a injecté donc, l'anti-CD25 qui permet en fait, de dépléter donc, spécifiquement les lymphocytes T régulateurs dans ce modèle. Et donc ici, on a collecté du sang de la souris humanisée donc, avant traitement. Et les T régulateurs sont ici, vous vous souvenez, ils expriment FOXP3 et ils expriment CD25, donc ils sont là. Et vous voyez qu'après traitement, on les a éliminés, alors que le reste des lymphocytes T, parce que c'est ici, donc sur les CD3, CD4, ce sont donc les lymphocytes T, le reste des lymphocytes T est bien là. On a éliminé que les lymphocytes T régulateurs. C'est une autre façon ici de les voir. Ils sont ici, quand on les déplète, ils n'y sont plus. Et en fait, après, quand on a sacrifié les animaux, on a pu regarder dans la rate, même aussi plus tard, et on ne les a toujours pas vus. Ici, c'est encore ici quand on gate par l'expression de FOXP3. Une fois de plus, ils n'y sont plus. Donc, on élimine les lymphocytes T régulateurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on perd le deuxième checkpoint. Donc, les lymphocytes T régulateurs sont vraiment indispensables. Ce sont les lymphocytes T. Quand je vous disais qu'au début, quand on greffait un thymus humain, donc là, tous les lymphocytes T se développent dedans, qu'ils soient régulateurs ou pas. Mais vous voyez que c'est simplement en éliminant les lymphocytes T régulateurs que ça revient à ne pas avoir de thymus humain du tout dans ces souris. Et en fait, donc, ce qui vraiment démontre que ce sont les lymphocytes T régulateurs qui empêchent l'expansion des lymphocytes B autoréactifs dans le compartiment naïf de ces souris. Donc ça, c'est par le deuxième test, la polyréactivité, pareil. Donc là, une fois de plus, ce sont les cellules souches proviennent de deux donneurs différents ici, et ils sont les mêmes que ce qu'on avait vu ici. Donc, je vais juste finir par quelque chose un petit peu plus technique, c'est une des dernières diapositives. C'est, on voulait savoir qu'est-ce qu'il y a en fait qui fait que ces lymphocytes T régulateurs, pourquoi ne sont-ils pas fonctionnels quand ils se développent dans du thymus de souris? Parce qu'a priori, je vous ai montré, ils se développent normalement, ou tout du moins, on a l'impression qu'ils se développent normalement, mais ils ne sont pas fonctionnels. Pourquoi ne sont-ils pas fonctionnels? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, on a comparé, puisque les cellules souches sont les mêmes, on n'a pas de différence génétique, et donc on a comparé en fait les lymphocytes T qui sont... ici, ce sont ceux qui sont suppressifs par rapport à ceux qui ne sont pas suppressifs. Et donc ici, on voit ce qui est bien exprimé ici en bleu, c'est donc l'augmentation des gènes ici en expression et ici la statistical values. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il y a moins de gènes qui sont exprimés en fait, dans les bons lymphocytes régulateurs qu'au contraire, il semble qu'il y a beaucoup plus de gènes qui sont exprimés dans les lymphocytes qui ne marchent pas bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on pense qu'il faut qu'il y ait un établissement du contrôle. Donc, j'ai établi certains gènes. Ces gènes-là, en fait, sont connus, en particulier PDK1, qui sont connus pour intégrer justement les signaux qui arrivent par le TCR et CD28 qui sont essentiels pour la formation, pour l'éducation des lymphocytes régulateurs. Donc, vous voyez que ces gènes sont uprégulés, donc sont augmentés dans les lymphocytes régulateurs qui sont fonctionnels. Et ici, en plus, bon, c'est en rouge dans les deux, mais ici, s'ils sont en rouge, c'est parce qu'on les a... Non, on ne l'a pas validé, celui-ci. Ici, ce qui est intéressant, par exemple, ce gène BAC2. BAC2, c'est un gène très intéressant qui, en fait, est très important pour la stabilisation du phénotype des lymphocytes régulateurs. Et en fait, BAC2 empêche, parce que vous voyez, les lymphocytes réacteurs, Alain vous a dit, ils expriment des récepteurs T autoréactifs. Mais en fait, ces T régulateurs, s'ils étaient constamment stimulés, ces cellules T devraient être activées. Et en fait, justement, elles ne sont pas activables. Justement, on dit qu'elles sont dans un état qui sont un peu répressées. Et BAC2 joue un très grand rôle justement pour maintenir, pour prévenir que ces lymphocytes soient activés eux-mêmes. Et TCF7 est aussi un facteur de transcription très important pour la stabilisation des T-reg. Par contre, vous voyez que dans les autres, on commence à exprimer des molécules qui normalement ne sont pas exprimées, comme des facteurs des chemokine receptors, ou même le complexe majeur de classe 2 qui commence à être très fortement activé. Et en fait, on a déjà même validé certaines de ces observations par flow cytometry, de ce que je vous ai montré. Par exemple, ici, TCF1 et LAF1, vous voyez ici dans les lymphocytes T régulateurs isolés du sang de contrôle, vous voyez, toutes les cellules sont double positives, et vous voyez que dans les cellules où les T-reg qui dérivent des souris humanisées sont fonctionnelles, vous voyez qu'elles ressemblent beaucoup à ce qui sort, ce qui est dans les individus asymptomatiques, alors que quand les T-reg se développent dans le thymus murin, vous voyez que ces gènes ne sont pas induits proprement, et en fait, ils ne sont pas exprimés. Pareil ici, vous voyez une très forte expression de CXCR3 et CCR5 sur ces lymphocytes T régulateurs qui ne sont pas fonctionnels, alors que normalement, ces molécules ne sont pas exprimées sur les T régulateurs, et ainsi de suite. Voilà, donc je finirai juste par cette diapositive. J'espère que je vous ai convaincu que, en fait, ces deux checkpoints, en fait, qui ne sont pas fonctionnels dans les patients les maladies auto-immunes, en fait, la régulation de ces étapes de contre-sélection de clones autoréactifs, celle de la moelle, en fait, est régulée de façon intrinsèque par les lymphocytes B et par l'association du récepteur B et du Toll-like receptor à des auto-antigènes, alors qu'au contraire, en périphérie, vous voyez que les lymphocytes B ne sont plus capables de savoir par eux-mêmes s'ils doivent être éliminés ou pas. Et en fait, cette fois-ci, cette étape est régulée par les lymphocytes T régulateurs. Voilà, donc ça, c'est toute l'équipe qui a fait tous les clonages. Et en particulier, j'allais dire, vous reconnaîtrez probablement les noms de certaines personnes, ce sont tous nos collaborateurs qui nous ont donc donné accès à tous les échantillons sanguins de tous ces patients avec les maladies auto-immunes ou donc des primary immunodeficiencies. Merci pour votre attention.